Pongi, le 12e mois 2020, que reste-t-il de l'intégrité du territoire centrafricain? On peut aujourd'hui se poser cette question. Le pays a enregistré ces dernières semaines des agressions étrangères, notamment de la part de ses voisins. D'abord à Bambouti, dans le Rumbomou, on a signalé en mi-novembre la présence de l'armée régulière sud-soudanaise et aussi, en fin de ce même mois, l'incursion d'une milice toujours sud-soudanaise à Bambouti. Dans la même période, des militaires camerounais entrés en territoire centrafricain ont fait des tirs d'intimidation dans le village Koundé dans la Namambiré. En début de ce mois de décembre, des milices arabes Misiria du Soudan ont fait aussi irruption dans le village Boromata, près de 130 km de Bira au centre. Question, que peut-on dire de la sécurité au niveau des frontières? Est-ce que la RCA garde encore ses 623 000 km2? Quelle réponse faut-il aujourd'hui face à ces agressions? Et pour en débattre, nous recevons sur ce plateau M. Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine de droits de l'homme. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Paul Cressant Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Farid Tahirou Kachabaz, porte-parole du parti Chemin de l'Espérance. Monsieur, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs de Kelouka.
Et monsieur David Gbeti, directeur de cabinet au ministère de l'administration du territoire. Monsieur Gbeti, bonjour.
Bonjour.
L'émission Sepatara au centre du débat. Je suis Armand Nguendi. Je bénéficie de l'appui de Claire Ndoumbéa Samba, Stéphane Flemalé et Rodrigue Leroy Benga. À la technique, c'est le service de Guy Rémi Yamindi et de Anne-Alix Pounemati. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Le débat, c'est tout de suite.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Voilà le débat politique. Nous ouvrons ce débat aujourd'hui avec le lancement officiel de la campagne République centrafricaine. Monsieur Paul Cressant Beninga, qu'attendez-vous de cette campagne qui va durer 2 semaines dans toute la République centrafricaine?
Écoutez, il ne faut pas se leurrer. Cette campagne inquiète a priori parce qu'il y a des éléments qui laissent penser que certains acteurs peuvent ne pas être de bonne foi, mais nous sommes là non pas pour effectivement relever ces points qui inquiètent, mais d'appeler plutôt les acteurs qui sont concernés, au premier plan les acteurs politiques, notamment les responsables des partis politiques. Nous appelons au calme, nous appelons à la sérénité, et nous osons encore espérer qu'au sortir de 2 semaines, nous n'allons pas à déplorer un certain nombre de faits qui ternissent l'image de la jeune démocratie en République centrafricaine.
Voilà, même question à vous, M. David Gbeti, directeur de cabinet au ministère de l'administration du territoire. La campagne électorale, vous qui avez cette chance de gérer les partis politiques, qu'attendez-vous de ce moment attendu par les centrafricains?
Je vous remercie, Armando. Je voulais d'abord m'excuser auprès des auditeurs pour la qualité acoustique de ma voix. Après avoir animé plusieurs ateliers, j'ai pratiquement perdu ma voix. J'espère que la communication va passer. Le ministère de l'administration du territoire, c'est le ministère tutelle de toutes les associations. Nous avons compris que le processus électoral s'est déroulé normalement avec la contribution des partis politiques, des candidats, des associations, de toutes les institutions impliquées dans le processus électoral. Les partis politiques ont multiplié des congrès ici, ont identifié des candidats aux élections présidentielles et législatives. Jusque-là, tout marche bien, il n'y a pas d'alerte, personne n'a fait une déclaration disant que je ne veux plus des élections. Donc la date officielle, c'est aujourd'hui, tout se passe bien. Nous déduisons que comme ça démarre aujourd'hui et que le Haut Conseil de la communication a multiplié des contacts avec les leaders, les candidats qui doivent faire des déclarations qui peuvent susciter des adhésions massives pour la consolidation de la paix en République centrafricaine, on n'attend que ça, de manière à ce que l'alternance politique se passe dans la paix.
Merci, monsieur Tahirou Kachabaz. Vous êtes de l'opposition, Chemin de l'Espérance. La campagne électorale, c'est un moment pour vous de vendre vos candidats. Est-ce que vous êtes prêt pour cette campagne qui démarre aujourd'hui?
Merci beaucoup, monsieur Yangedi. Vous savez, la campagne électorale dont vous parlez, je ne sais pas si vous la voyez, mais nous ne la voyons pas. Donc personne ne la voit, cette campagne électorale. C'est formel, c'est vrai. C'est annoncé à la radio, mais dans la réalité des faits, malheureusement, c'est ce que l'on redoutait et qui est en train de se produire, à savoir qu'il n'y a pas d'adhésion de la population par rapport à cette question de campagne électorale, puisqu'il y a beaucoup trop d'incertitudes, il y a beaucoup trop de points sur lesquels on n'a pas réussi à trouver un consensus. Et donc, vraiment, il ne nous reste plus que la prière pour que les choses puissent se décompter. Mais vraiment, c'est ce qu'on redoutait qui est en train de se produire, malheureusement, avec un gouvernement autiste qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer autour de lui.
Voilà, c'est comme l'actualité prime, monsieur Joseph Bindoumi, la campagne électorale, qu'attendez-vous de ce moment, de tous les Centrafricains de part et d'autre qui suivent, et même les étrangers qui suivent de près cette situation en République centrafricaine?
Oui, je vous remercie parce que effectivement, le calendrier qui a été indiqué fait état de ce que depuis ce matin, à 0h, nous avons commencé la campagne électorale pour les élections fixées au 27 décembre 2020. Et donc, pour nous, nous pensons qu'une campagne électorale qui commence est une bonne chose. C'est la raison pour laquelle nous demandons à ceux qui vont battre campagne de le faire dans le respect des textes. Mais nous restons quand même réservés dans le fait que nous voulons voir, parce que nous sommes quand même un pays occupé par des groupes armés et nous regardons avec beaucoup d'attention comment la campagne va se dérouler dans les zones qui sont occupées. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'on verra si on a fait une bonne campagne et si cette campagne peut nous donner des élections transparentes et crédibles.
Voilà, nous bouclons cette partie, c'est l'actualité qui prime. Et revenons à notre débat d'aujourd'hui avec ce reportage de Igor Jeskansenapay sur l'incursion des forces sud-soudanaises à Bambouti dans le Houmboum.
L'alerte nous a été donnée par un parlementaire de cette région du nord-est dans la préfecture du Houmboumou. La semaine dernière, une violente incursion des éléments de l'UPC a provoqué la mort d'un chef du centre de santé sud-soudanais. Plusieurs habitations ont été incendiées. Cette agression a révolté les autodéfenses sud-soudanais qui ont décidé de contre-attaquer. C'est ce que nous explique le député Jean-Bernard Aniouegbisegui.
Quand ils sont revenus, vous savez, les sud-soudanais ne s'amusent pas avec leur territoire comme ce qui se passe chez nous. Quand ils sont revenus, automatiquement, le lendemain, l'autodéfense du Sud-Soudan était rentrée. C'est comme ça que le général de l'UPC qui était à Bambouti a été tué. Et il y a eu des tueries à Bambouti du côté de l'UPC.
Cet élu confirme que la maire de Bambouti, Anne-Marie Siokani, seule autorité de l'État dans cette zone, est toujours entre les mains des éléments de l'UPC. Une situation inacceptable qui nécessite en urgence la réaction de Bangui.
Ceux qui avaient fui dans la brousse sont sortis prendre Mme le maire en otage. Et aujourd'hui, l'UPC n'est plus dans leur base. Ils sont chez Mme le maire. Ils ont dit que c'est l'unique représentante de l'État qui est à Bambouti. Elle a été prise en otage. C'est ce qui se passe aujourd'hui à Bambouti.
À la suite des affrontements entre ces groupes armés de part et d'autre de la frontière, ces tensions font craindre aujourd'hui une intervention de l'armée sud-soudanaise sur le sol centrafricain, estime Jean-Bernard Aniouegbisegui.
À la communauté internationale et le gouvernement centrafricain qui est censé protéger ce territoire-là, qui est censé protéger la population centrafricaine. Aujourd'hui, 16 véhicules des militaires sud-soudanais qui sont en train de venir à Bambouti. Vous pensez que quand les balles sifflent là, ça ne va pas choisir que le PC. Il y a les peuples qui sont là-bas, 2500 peuples qui sont là-bas. Il y a la population autochtone qui sont là. Quand ils vont arriver, normalement l'UPC qui est là-bas n'a pas cette capacité-là de vraiment affronter les Sud-Soudanais qui vont venir. C'est qu'il est certain, quand ils vont voir les Soudanais venir, ils vont fuir. Et le représailles, ça va répercuter sur la ville de Bambouti jusqu'à même au bout. C'est ce que je crains aujourd'hui.
Le gouvernement nous a confirmé toutes ces informations, mais pour l'instant, malgré les sollicitations, les forces armées centrafricaines n'ont pas encore réagi sur le terrain à cette vague de violence.
Merci Igor Jeskansenapay, vous êtes dans le débat politique de Radio Ndekelou Kapatara. Première question à vous, monsieur David Betty, et le chrono est en marche. Comment réagissez-vous à ces faits?
Je souhaiterais à ce que ce débat ne se limite pas seulement à la politique, puisque la politique c'est l'animation de la cité. Ce qui doit nous conduire, comme Ndekelou a écouté de l'extérieur, j'étais en France, quand les gens se rentraient dedans, dès lors que nous rentrons dans une phase très sensible, je souhaite que notre communication soit dirigée par le sens du patriotisme, du nationalisme et de la citoyenneté. Tout ce que nous avons écouté ici, c'est lié tout simplement à la perméabilité et à la porosité de nos frontières. Aujourd'hui, notre pays souffre de l'embargo. Et que l'armée n'a pas les moyens de contrôle. Les forces de sécurité de l'intérieur, la police, la gendarmerie, les rapports bimestriels des préfets et des sous-préfets qui viennent vers nous confirment ce que nous avons subi tout de suite. Malheureusement, les forces de l'armée centrafricaine sont très limitées et que les contingents qui sont là, ils sont là pour accompagner le gouvernement. Il faut que l'armée centrafricaine soit devant la gendarmerie, la police et autres, tout ça. Le problème de l'incursion ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs années. Mais compte tenu du fait que nous avons eu le prix Nobel de coups d'État, de rébellions, de contingents qui se succèdent, MINURCA, FOMUC, MISAB, tout ça. Dans tout ça, ce qui est accusé, c'est la politique ou bien le politique. C'est une affaire qui engage la nation tout entière, qui relève de la compétence de chaque Centrafricain. Tout cela se fait parfois par la complicité des Centrafricains que nous sommes nous-mêmes, parfois des autorités politico-administratives, parfois de la population locale, qui n'a pas les moyens. Les bornes de notre pays n'ont pas bougé, mais le territoire centrafricain a subi une destruction massive sur toute l'étendue du territoire. Vous savez qu'aujourd'hui, notre pays est devenu un dépôt d'ordures de tous les groupes négatifs, de toutes les forces négatives, c'est-à-dire les rébellions. Donc, dans le temps et dans l'espace, nous gérons cela avec la bonne volonté du
gouvernement. Voilà, on va revenir pour comprendre davantage Monsieur Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine de droits de l'homme. Avec cette situation, la Ligue centrafricaine de droits de l'homme s'inquiète de plus en plus.
Oui, nous nous inquiétons beaucoup, surtout en commençant par le langage politique. Nous avons des inquiétudes sur le langage politique parce que nous n'acceptons pas qu'un pays souverain comme le nôtre trouve des excuses pour prétendre que nous avons l'embargo et qu'en raison de l'embargo, nous ne pouvons pas défendre les frontières de notre pays. Et donc, il y a déjà cet aspect parce que la Ligue centrafricaine des droits de l'homme pense fermement que nous avons la possibilité de défendre notre patrie. Et la Constitution de la République centrafricaine nous oblige à le faire. Et puis, en plus, lorsque nous avons des problèmes sur les frontières de notre pays parce qu'il y a des groupes armés qui se sont installés chez nous, la meilleure façon que nous autorise la Constitution, c'est de s'adresser au peuple. C'est-à-dire qu'on demande le peuple pour annoncer au peuple que le territoire national est occupé. Et c'est le peuple qui donne la réponse qu'il faut avoir. Ce n'est pas l'embargo.
Le peuple donne la réponse comment ?
Ben écoutez, le peuple peut dire, ben écoutez, mon territoire est envahi. Moi, peuple centrafricain, je m'engage à libérer la nation. Je m'engage à libérer la nation. Ça veut dire que les élèves, les étudiants, les commerçants, tout centrafricain, en âge de se battre, s'engage pour libérer la patrie. Mais on ne croise pas les bras en disant que nous avons l'embargo, donc nous attendons les résultats de l'embargo pour libérer la nation. Vous comprenez qu'en agissant ici, mais le peuple croise les bras et reste la victime des groupes armés.
Voilà, messieurs, nous allons continuer dans ce débat avec cette question à vous, monsieur Fari Tayrou Kachabaz, chemin de l'espérance. L'opposition démocratique a décrié cette situation depuis fort longtemps. Aujourd'hui, en écoutant monsieur David Gbetti, la situation remonte et ne date pas d'aujourd'hui.
Oui, absolument, je souscris parfaitement à l'analyse qu'a produit le DIRCAB David Gbetti. C'est vrai, quoi, c'est une question qui concerne tous les citoyens, qui concerne la nation. Donc ce n'est pas une question d'être partisan, mais il faut comprendre que ce qui se passe actuellement, il y a des raisons qui sont aussi bien géopolitiques que des raisons aussi qui relèvent de la politique. Géopolitiquement, vous savez, depuis quelques années, presque 20 ans, on vit dans un monde où le crime transfrontalier, le terrorisme a pris le pas. Et face à ce défi, face à cette crise-là, il faudrait que les États puissent avoir une réponse coordonnée au niveau sous-régional. Cela veut dire qu'il faudrait qu'on fasse plus d'efforts dans l'intégration sous-régionale pour pouvoir mutualiser les forces et s'opposer à cela. Et je pense que tous les observateurs politiques l'ont vu, il y a une sorte d'art de crise qui s'est dessiné depuis le Lac Tchad, la zone Niger-Ouest du Nigeria jusqu'au Kivu. Donc cet art de crise-là, c'est une arc dans laquelle où le terrorisme, le crime organisé est en train de s'implanter. Et face à cela, il faudrait que nous ayons des États qui soient solides. Et le fait qu'on puisse aujourd'hui voir des groupes armés, des rebelles, franchir les frontières, etc., et créer du désordre dans les États souverains, ça montre aussi qu'il y a une faillite dans la construction de l'État. Donc il faut qu'on s'interroge sur cela. Et ce n'est pas parce que je suis de l'opposition que je dis cela, mais c'est une réalité. Et si nous ne faisons pas garde, nous pouvons aussi voir disparaître le pays, comme on l'a vu, vous voyez le Somalie. Actuellement, au Somalie, depuis la crise de 1993, il y a 4-5 États autonome entre guillemets. Donc c'est pour dire qu'il y a une faillite de l'État. Et troisième point que je voulais soulever, il y a aussi au niveau national, il faut le déplorer. Et je le dis ici parce que nous, on n'en fait pas la langue de bois. Je suis vraiment au regret de voir que quand vous voyez ce qui se passe par exemple à Buromata, à Mamoun ou bien pas très loin de Birao, à Mdafok, nous avons vu des groupes armés qui sont nés en Centrafrique qui faire appel à des groupes armés étrangers, et ces groupes armés centrafricains sont soutenus par le gouvernement. Pourquoi ? Parce que leurs chefs sont dans le gouvernement. Donc on voit qu'il y a, il y a une externalisation qui est en train de se faire. Et c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui au niveau de Bambouti, où des groupes armés extérieurs ont fait appel pour pouvoir intervenir sur le centre africain. Ça, c'est vraiment extrêmement grave.
Merci beaucoup, M. Farita Rukachaba. Je rappelle que nous allons également parler de Bambouti et de l'autre côté de Koundé dans la Mambéré avec le Cameroun. Monsieur Paul Cressant Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile. Le groupe de travail appelle souvent à ce qu'on puisse gérer nos frontières, barrer la route à toutes ces transactions au sein de la République centrafricaine. Quel commentaire faites-vous de cette situation ou de ce reportage que vous venez d'écouter?
Merci Armando. J'avoue que j'ai pris un réel plaisir en écoutant mes prédécesseurs dans la prise de la parole ici, notamment Shabazz qui a posé un certain nombre de problématiques, passez-moi l'expression, qui me paraissent extrêmement intéressantes. Nous parlons de l'intégrité du territoire, et l'intégrité du territoire interne un principe du droit international qui renvoie aux droits et aux devoirs inaliénables d'un État à protéger ses frontières. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'agression. L'agression aujourd'hui est une forme d'atteinte à l'intégrité du territoire, mais au-delà ou en plus de l'agression, nous avons également le séparatisme. Et dans le cadre centrafricain, ces deux éléments sont réunis. Parce qu'au niveau de frontières, nous sommes agressés. Mais aussi à l'intérieur, il y a le séparatisme de fait. Et on n'en parle pas. Parce que lorsqu'on voit l'establishment des groupes armés, notamment la manière par laquelle les groupes armés se sont installés et le comportement de certains leaders des groupes armés, ça nous laisse penser qu'on est presque dans une sécession de fait ou dans un séparatisme de fait. Et donc, ces deux éléments qui portent atteinte à l'intégrité du territoire centrafricain sont réunis. Maintenant, le président Binoum nous l'a rappelé ici, il y a un fait. Il a dit l'armée doit protéger. C'est le rôle de l'armée en réalité, notamment lorsqu'on va dans ce qu'on appelle la défense. L'armée est censée protéger nos frontières. Et l'argument selon lequel nous sommes sous embargo et à partir de ce moment, nous ne pouvons pas protéger notre frontière, je pense que cet argument, nous pouvons dans une moindre mesure le battre en brèche. Et je vais vous dire pourquoi. Simplement parce que, je le dis souvent, en politique, il y a deux acteurs. Lorsqu'on veut résoudre ce genre de problème, il y a d'une part l'armée, mais il y a d'autre part la diplomatie. Et Shabazz là évoqué ici lorsqu'il parlait de l'intégration sous-régionale, il parlait des dynamiques sous-régionales. Aujourd'hui, nous n'avons pas une diplomatie forte et agissante. Parce que si nous avons une diplomatie forte et agissante, même si notre armée n'a pas encore, je ne souscris pas à cette thèse, mais même si on le dit que notre armée n'a pas encore les capacités pour pouvoir défendre le territoire centrafricain, je crois que sur le plan de la diplomatie, si nous avons une diplomatie forte et agissante, nous pouvons résoudre le problème. Je prends un exemple simple pour finir.
Quelques secondes, je vous en prie.
Vous voyez, en 2004, si mes souvenirs sont exacts, au niveau de la République démocratique du Congo, la RDC a accusé le Rwanda d'avoir violer les principes du droit international en agressant les Congolais. Mais les Nations Unies ont rappelé ce principe et ont amené les deux États à privilégier la voie diplomatique pour résoudre le problème. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Vous voyez par exemple au niveau du Cameroun, nous sommes en train de perdre. On en dit ici tout à l'heure que les bornes n'ont pas bougé. Non, les bornes frontalières de la République centrafricaine ont connu d'énormes modifications.
Et voilà, nous allons revenir sur ce point de l'autre côté de Cameroun pour parler de ces bornes ou bien de ces zones tampons dont vous avez fait allusion. Je reviens vers vous, monsieur David Betty. Aujourd'hui, dans ces zones, nous savons que ce sont les groupes armés centrafricains qui traversent de l'autre côté du Soudan, provoquent les Soudanais et en réponse, l'armée régulière soudanaise infiltre sur le territoire centrafricain et agresse aussi la République centrafricaine. Est-ce que la responsabilité ici est centrafricaine?
Non, nous ne sommes pas au courant de cette information-là. Dire que c'est l'armée centrafricaine qui
non, c'est le groupe armé centrafricain, ce n'est pas l'armée.
Groupe armé, oui. Voilà, c'est ça la précision. Ça dit que les forces négatives,
oui,
c'est ça. Mais le problème de fond, je regrette que l'absence de notre frère diplomate.
Et effectivement, si vous me permettez, je rappelle à tous les centrafricains, à tous les auditeurs, que Radio Ndikiluka a invité le ministère des Affaires étrangères qui a désigné M. Bruno Djotolou. Malheureusement, il ne s'est pas rendu disponible deux fois de suite pour répondre à nos préoccupations.
Je vous remercie beaucoup. Le problème de fond, c'est que les conventions internationales ne sont pas respectées. La gestion commune des frontières. La RCA ne peut pas avoir la paix sans la contribution des pays riverains. le Tchad, le Soudan, la République du Congo et le Congo démocratique. J'ai passé 5 ans en tant qu'expert dans la conférence internationale des régions des Grands Lacs. Il y a des conventions qui lient les pays des Grands Lacs. Il y a le triangle numéro 3 qui regroupe Cameroun, le Congo, Brazza et la République centrafricaine. Le triangle numéro 6 qui regroupe le Tchad, le Gabon et la République centrafricaine. Dans ces conventions, il est dit clairement qu'aucun pays ne peut servir d'arrière-plan pour attaquer un autre pays des Grands Lacs. Malheureusement, c'est regrettable jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui accentue aussi ce domaine l'a dit que les forces négatives vont provoquer à l'extérieur et que l'invasion vers la République centrafricaine, c'est bien ça, ce qui se passe régulièrement. Mais je ne sais pas si on va parler, il y a d'autres points qui facilitent cette tâche-là, surtout entre nous et le Tchad, la transhumance. La transhumance accentue les agressions, les incursions. La recherche de l'or et du diamant, les richesses. C'est aujourd'hui convoité à cause de ces grandes richesses. Le Tchad, la richesse du Tchad dépend de la République centrafricaine. Mmh. Il y a le dorsal Ubangi qui partage le pétrole du Tchad et de la République centrafricaine, qui partage l'hydrologie, l'hydrographie du Tchad, puisque je suis géographe de formation, vous avez bien fait, vous portez votre choix sur moi. Et donc, tout ce problème... Je ne partirai pas de l'intervention des uns et des autres aussi pour donner mes réponses. J'ai beaucoup apprécié les réponses ici, mais on ne peut pas évoluer sans ignorer qu'aujourd'hui on est axifié.
Voilà, toujours un petit rappel, certaines préoccupations devaient être orientées vers le ministère des Affaires étrangères, mais malheureusement, M. Bruno Djotoloum, qui a été désigné par... La responsable de son département ne s'est pas rendue disponible pour répondre à toutes ces préoccupations. Monsieur Bindoumé, vous voulez réagir d'une manière rapide pour qu'on puisse vous
dire. Très rapide. Très rapide, je voudrais. Nous avons été invités par Ndeke Luka pour parler d'un problème centrafricain. Ça veut dire que la démarche que nous avons ce matin, c'est de dire quels sont les éléments que nous disposons à l'intérieur de la République centrafricaine pour parer à toute éventualité. C'est ça là le débat d'aujourd'hui, parce qu'en fait, si nous rentrons dans le droit international, nous commençons à prendre des positions que les autres devaient avoir prises pour sauvegarder les frontières communes. Et à partir de ce moment, nous nous trouverons dans l'impossibilité, nous, de donner des ordres aux autres pays. Donc nous faisons le débat. Ce qu'il faut que nous puissions rechercher, c'est de dire, puisque nous sommes aujourd'hui au courant que nos frontières sont poreuses, qu'est-ce que nous pouvons mettre au niveau interne en marche pour que nos frontières soient protégées? Alors, pour vous en convaincre, c'est notre constitution de la République centrafricaine qui dit, déjà à son préambule, résolu conformément au droit international à préserver et à défendre l'intégrité du territoire de la République centrafricaine, ainsi que son droit inaliénable au plein exercice de la souveraineté sur son sol, son sous-sol et son espace aérien. Ça, c'est une obligation de notre constitution sur le peuple centrafricain, sur les gouvernements de la République centrafricaine, sur le pouvoir de la République centrafricaine. Donc, si nous nous trouvons aujourd'hui pour nous inquiéter sur le fait que nos frontières sont poreuses, recherchons dans notre système politique, juridique, qu'est-ce que nous disposons comme élément pour que, au sortir d'ici, le Centrafricain dise « C'est vrai, nos frontières sont poreuses, mais nous avons écouté dans les débats des possibilités que nous puissions mettre fin à cette porosité. »
Voilà, M. Paul Kassam-Beniga, rapidement, quelques secondes.
C'est juste un mot de réaction par rapport au propos du président Bidoumi. Je ne partage pas son avis parce que pour deux raisons. La première, c'est qu'il a relevé dans la Constitution la question de l'intégralité du territoire est une question de droit international. Et cette question, ce principe a été repris par la Constitution. Même la définition donnée par la Constitution, c'est une définition du droit international. Ça, c'est dedans. Deuxièmement, Président, vous ne pouvez pas nous empêcher de faire une analyse causale qui prend à la fois les facteurs endogènes et exogènes de la situation. Lorsque nous allons dans le droit international, nous évoquons les facteurs exogènes de la situation. Et quand nous revenons, nous avons parlé, par exemple, de la diplomatie, notre diplomatie qui n'est pas forte, qui n'est pas agissante. Ça, c'est des éléments causaux, mais c'est des éléments qui sont d'ordre interne. interne. Et donc, nous ne pouvons pas exclure les éléments externes. Maintenant, ce n'est pas pour indexer. Je vous connais très bien. Je vous sais très, très franc. Pour ne pas écarter les aspects externes, notamment la mainmise ou l'intervention de certains États qui nous entoure, oui, et qui constitue
le Soudan, des... le Tchad,
notamment le Tchad par exemple. Mmh. Lorsque on a rappelé ici le triangle 6, oui, il y a aussi le triangle de la mort. Quand vous prenez l'axe Cameroun, je vous dis Garamboulaye, c'est ce qu'on appelle dans le langage géopolitique le triangle de la mort, où ce triangle a été considéré, Cameroun, la frontière Cameroun, Centrafrique et Tchad. Ça a été considéré comme le triangle de la mort parce que on se rend compte qu'il y a une porosité là, et la Centrafrique a été toujours considérée, ou la République centrafricain était toujours considéré comme le maillon faible. Et ça, c'est des éléments que nous devons mobiliser dans cette analyse-là.
Effectivement, comme la centrafricaine est considérée comme un maillon faible, que peut-on faire? C'est cette même question que M. Joseph Bindoumi a soulevée tout à l'heure, pour que nous ayons la force qu'il faut pour barrer la route à toutes
justement,
ces éventualités.
Justement, je suis entièrement d'avis avec vous, si vous permettez. Oui, il a secondes. Évoqué la question sur le plan interne, en rappelant les articles de la Constitution. Mais au-delà du peuple auquel il a recours, il faut également tenir compte des missions qui sont enseignées à certaines institutions de notre armée. Et c'est pourquoi je disais ici, si notre armée, on dit qu'elle est faible, qu'elle ne peut pas protéger, je dis il y a encore une autre institution qui doit intervenir, c'est la diplomatie centrafricaine. Voilà. Malheureusement, cette diplomatie a failli. Elle n'est pas agissante, et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui on ne peut même pas négocier les bornes qui ont bougé.
Malheureusement également pour nous, parce qu'on a invité quelqu'un de ce ministère pour répondre à toutes ces préoccupations. Monsieur Tariq Afshabaz, Bambouti est une localité frontalière avec le Sud-Soudan, mais comment expliquer que des forces armées centrafricaines ne se trouvent pas sur place depuis fort longtemps?
Monsieur Yangindi, je pense que de ce qui a été dit ici, pour pouvoir donner une réponse à la question que vous posez, il faut revenir sur ce qu'a dit le GIRCAB, la question de la transhumance. Vous savez que, étrangement, les couloirs de transhumance, ce sont les couloirs également qui sont utilisés pour le trafic d'armes, le trafic de drogue, tout cela. Bambouti, aujourd'hui, est une ville stratégique. C'est le seul accès qui nous permet d'ouvrir la porte du Soudan, de l'Ouganda, etc. Donc Bambouti est un point infiniment stratégique. Et vous aurez remarqué que ceux qui ont fait des intrusions sur le sol centrafricain, ce n'est pas l'armée sud-soudanaise. Ce sont des groupes armés sud-soudanais. Donc ça veut dire que si vous comprenez bien ce qui se passe, ce n'est pas une guerre entre la RCA et puis le Sud-Soudan. Non. C'est une guerre entre des groupes armés qui sont en Centrafrique et des groupes armés qui sont en Sud-Soudan. Pourquoi ? Pour le contrôle du bétail, pour le contrôle de la drogue, pour le contrôle des armes. C'est de ça dont il est question. Et comment on peut résoudre cela ? Pour résoudre cela, il y a déjà, premièrement, quand vous voyez la loi de programmation militaire qui a été adoptée à l'Assemblée il y a 2 ans et qui a été présentée par la ministre de la Défense, la loi de programmation, vous voyez quels sont les points saillants. Premièrement, construction de centres d'instruction. Deuxièmement, accroissement des effectifs. Troisièmement, acquisition de matériel. Rien, absolument rien sur la question de la lutte contre la crime transfrontalier, rien, absolument rien contre le djihadisme et tout le terrorisme, etc. Donc quand c'est des questions qui sont obitérées par l'armée, par le gouvernement, c'est normal qu'à la fin ce soit un chaos. Et puis je termine rapidement pour pouvoir justement appliquer la dose dont on parle, il faudrait d'abord que dans le gouvernement il y ait une volonté politique. Or, les groupes armés qui interviennent, que ce soit dans le nord-est ou le sud-est, ont leurs représentants dans le gouvernement.
Voilà. Donc ça pose problème. Monsieur le Dirkab, ça fait plus d'un an que le Premier ministre a annoncé le déploiement des forces armées centrafricaines à Bambouti. Quel est donc le vrai problème à ce moment, puisque ça dure?
Je voulais apprécier la question ici, la question de débat. Que peut-on dire de la sécurité au niveau des frontières? Est-ce que la RCA garde encore ses 623 000 km2?
Et cette question, je vous préviens, on y reviendra pour beaucoup.
Quelle réponse faut-il aujourd'hui face à ces agressions? Vous êtes organisé, Armando, vous êtes organisé. Ça dit qu'en premier plan, il est question de recenser tous les problèmes, les causes des incursions, de violations de ces frontières-là. Et puis après, quelle réponse faut-il apporter? Ça dit dans la deuxième partie. Mais je répète encore pour la dernière fois, je ne partirai pas des éléments de contribution de chacun de nous aussi pour réagir. J'ai apporté mes contributions personnelles. Et donc, il y a beaucoup de choses à parler. Il n'y a pas seulement politique, il y a pas. Si on ne parle pas de transhumance, si on ne parle pas de sociométrique, si on ne parle pas de ceci, de transculturel, on ne va pas formuler les véritables propositions de solutions à ces violations.
Voilà, rapidement sur ma question tout à l'heure avec le déploiement de forces armées centrafricaines.
Le problème de fond, c'est le problème, c'est pas un problème d'hommes, c'est le problème de matériel et de voies de communication. parfois dit que nous sommes, il y a des contingents qui sont là pour nous aider. Il y a l'armée centrafricaine qui est là. Le gouvernement centrafricain manque de moyens. De moyens parfois de toutes les pistes rurales, la plupart des pistes sont dégradées. Les moyens qu'il faut pour aller sur le terrain, vous savez qu'aujourd'hui, s'il faut faire une sécurité, faire des contrôles, ça se fait, c'est mixé, c'est avec les contingents. Il faut les multiplier. Donc il y a quelques problèmes. Si cette promesse-là a été faite, mais de temps en temps...
Et ça, non, se fait, que ça dure quand même.
Ça dure. L'autorité, le sous-préfet de là-bas nous a fait des rapports. Parfois, il y a des allers-retours, il y a des redéploiements, allers-retours de forces de sécurité intérieure.
Voilà, l'inquiétude n'est pas qu'à Bambouti, à l'ouest du pays, mais elle est aussi à l'ouest. Plus précisément au village Koundé dans la Mambéré, là, de nombreux notables de cette région se sentent menacés après une incursion des forces armées, des forces camerounaises, j'allais dire. Igor Descansenapaï, une fois de plus, vous étiez à Boire et vous avez rencontré le maire de la commune de Koundé dans la sous-préfecture de Babois.
Ce n'est pas la première fois que les habitants de Koundé sont confrontés aux agressions de leurs voisins camerounais. Depuis des décennies, des portions de ces territoires ont été occupées par le Cameroun. Guy Mbaringo Bardé, le maire de Koundé, raconte comment il a subi les manœuvres des militaires du Cameroun. Il considère qu'on peut parler d'une nouvelle tentative d'annexion.
Ces derniers temps, le 5 de ce mois passé, les militaires du Cameroun ont été allés récupérer les drapeaux auprès d'un de mes chefs de quartier au niveau de la frontière là-bas. Et c'est par bien de M. le sous-préfet qui m'a donné l'autorisation avec le commissaire spécial auprès de la police de Beloko. On est allé pour retirer ce drapeau-là. Donc vous voyez vraiment, c'est un sérieux problème.
Guimba Ringo Bardé déplore l'absence des forces de défense et de sécurité de la RCA dans cette commune. Plusieurs localités ont déjà souffert de cette absence.
Effectivement, on a les FSI. Vous voyez, ils ont des limites, ils ne peuvent pas aller au-delà. Et aussi, il y a des forces de FACA qui ont été déployées, mais ils ne sont pas nombreux. Donc leur effectif ne permet pas vraiment surtout de sillonner la frontière.
Sans avoir l'assurance d'être protégés par l'armée centrafricaine, les habitants de Koundé ne pourront pas voter sérénement, estime Guimba Ringo Bardé.
Je demande aux autorités, au gouvernement, de faire de son mieux, qu'il fait déployer vraiment des effectifs au niveau de la frontière, qu'il sécurise. Nous sommes vraiment proches des élections, donc on sollicite vraiment au gouvernement de penser à la sous-préfecture de Babois. Vous voyez qu'il fait frontière surtout au Cameroun et on est en saison sèche aussi, c'est la période de transhumance. Vous voyez que certains couloirs doivent être protégés.
Depuis 2013, les incursions de l'armée camerounaise se sont multipliées sur le territoire centrafricain. La dernière en date il y a un mois, sans aucune réaction des militaires centrafricains. Leur première base est située à Boire, à plus de 150 km de Koundé. Igor Djeskin, Senapa de retour de Boire, Radio Ndekeluka.
Voilà le débat Patara. Merci Igor. Les autorités locales dépendent du ministère de l'administration du territoire. Est-ce que vous êtes informé de la situation? Si oui, alors que faites-vous, monsieur David Betty?
L'administration du territoire, c'est une administration civile. Cette réponse serait beaucoup plus, cette question serait beaucoup plus appropriée, comme je vous ai dit tout à l'heure, hors micro.
Militaire.
Il serait important que la sécurité publique soit là et qu'un élément de la défense nationale soit là pour... Nous gérons les préfets et les sous-préfets, bien sûr, qui sont...
Et même les maires, hein, c'est lui qui a parlé
Le maire. Les chefs de groupe, les chefs de village, nous sommes au courant. Lorsque nous recevons les rapports, on les fait parvenir aux secteurs concernés. On fait soit transmis au ministère de la Sécurité publique ou bien de la défense, quant à eux, d'agir directement sur le terrain. Mais il y a des efforts. Il y a des efforts, les distances, les moyens matériels, les hommes sont là. Vous savez, retrouver la sécurité, c'est un processus, il y a un début. Les difficultés sont énormes, mais on ne peut pas baisser les bras. C'est notre pays.
Monsieur Bindoumé, en tant qu'ancien ministre de la Défense et aussi président de la Ligue centrafricaine, comment le gouvernement devait réagir à cette situation, selon vous?
Je ne voudrais pas aussi qu'au cours de ce débat, nous essayons d'insister sur la position du ministre des Affaires étrangères. Il fait partie d'un gouvernement avec une solidarité gouvernementale. Ça veut dire que même si un représentant du ministère des Affaires étrangères n'est pas avec nous, il n'en demeure pas moins qu'un représentant des membres du gouvernement est avec nous, donc il peut parler en cette qualité dans la souveraineté gouvernementale. Mais je voudrais vraiment maintenant rentrer au vif du débat. Je voudrais dire que lorsque nous avons deux formes d'analyse, nous avons une analyse à faire et que nous disposons dans cette analyse des éléments endogènes et des éléments exogènes. La meilleure méthode est celle qui nous permet de connaître les éléments endogènes et puis de les rechercher ou de trouver leur explication par des éléments exogènes. Alors, je pense que c'est cette démarche que nous devons faire parce que c'est ça là qui préoccupe notre peuple. Je prends trois exemples. Le premier exemple, c'est qu'on dit les forces irrégulières en République centrafricaine sont allées provoquer des forces irrégulières au Sud-Soudan. Et puis, quand les Sud-Soudanais sont venus, ils ne sont pas venus sur les forces irrégulières, ils sont venus rentrer sur le territoire de la République centrafricaine. Donc, la réponse, c'est pourquoi la République centrafricaine a permis l'existence de forces irrégulières sur son territoire. Ça, c'est la première réponse. Donc, nous devons dire, est-ce que le fait que nous avions dit que les forces irrégulières doivent rester chez nous, est-ce que, à contrario, ça veut dire que si ces forces irrégulières-là vont provoquer la République démocratique du Congo, vont provoquer le Soudan, vont provoquer le Tchad, et nous allons assumer que ces pays-là nous ont envahis, alors que c'est des forces irrégulières que nous avons autorisées à résider sur notre territoire qui ont fait la provocation. Voilà les éléments endogènes. Et quand on parle de l'affaire de Koundé...
Oui, quelques secondes.
Si vous pensez que je dois m'arrêter, je peux m'arrêter.
Non, non, vous continuez. C'est pour vous rappeler le chrono qui est en marche par rapport à votre temps.
Alors, je dis pour Koundé, quand vous vous rendez compte qu'il y a un problème aujourd'hui à Koundé, mais le problème n'est pas celui de Koundé, malheureusement. Il n'y a que Koundé, il y a Ngaoui, il y a Linjombo, etc., qui sont les frontières de notre pays.
Ngaoundaï, oui.
Les Ngaoundaï, etc., qui sont les frontières de notre pays, qui ne sont plus entre nos mains. Si vous lisez l'histoire de la République centrafricaine, regardez-moi bien, si vous lisez l'histoire de la République centrafricaine avant l'indépendance, et puis au moment de l'indépendance, la géographie, j'aime bien parce que mon voisin de droite est un géographe, la géographie de cette époque donnait le mont Aouk, dans l'Ouampéndé, à l'intérieur du territoire de Lubangui-Chari. Et aujourd'hui, le mont Aouk, c'est la sous-préfecture de Ngaoui au Cameroun. Est-ce que vous comprenez?
Oui.
Et donc, nous avons croisé tellement les bras, et à cette époque-là, il n'y avait pas d'embargo, nous avons tellement croisé les bras.
Donc, ça veut dire que cette situation a daté?
Oui, ça date. Mmh. Nous avons croisé les bras sur les limites des frontières de notre pays, au point que c'est quand il y a des situations comme celle de Koundé, ben nous réagissons parce qu'effectivement, nous sommes en période électorale, etc.
Et pour l'instant même, la situation demeure encore, voilà, puisque l'on n'a pas encore réagi.
Je dirais tout à l'heure une question sur la transhumance. La transhumance est notre péché. Nous avons aggravé ce péché parce que nous avons dit en République centrafricaine que nous allons mettre des UMS qui sont des groupes rebelles qui vont travailler avec les forces armées centrafricaines pour surveiller les couloirs de transhumance. On n'a pas dit que l'armée centrafricaine, comme par le passé, se mettait à la frontière et le bétail qui venait de l'étranger se faisait enregistrer, les bêtes étaient identifiées, vaccinées avant de rentrer.
Voilà, nous allons revenir,
Voilà les éléments endogènes que je pense que sur lesquels nous devons réfléchir plutôt que d'aller...
Voilà, Monsieur Paul Cressan Benega, vous ne cessez d'alerter sur cette situation. Comment cela vous inquiète, la situation de Koundé, dans la sous-préfecture de Baboua?
Alors, la situation de Koundé est une situation qu'on doit regarder de manière froide. Lorsqu'on parle d'agression, il faut le savoir, l'agression est peut-être un fait d'un État ou un fait d'un individu. Mais si ce sont les forces armées régulières d'un État qui viennent pénétrer sans autorisation aucune sur un territoire, ça veut dire qu'il s'agit là d'une agression d'un État. Et c'est inquiétant parce que vous voyez, quand vous arrivez à Beloko, après Beloko à Cantonnier, vous allez voir déjà comment est-ce que les Camerounais grappillent petit à petit, progressivement, mais de manière constante, une partie du territoire centrafricain. Ce qui gêne, c'est qu'il n'y a pas de démarches politico-administratives fortes pour pouvoir résoudre au mieux ce problème. Et aujourd'hui, vous savez, il y a ce qu'on appelle le droit de poursuite. Si le territoire centrafricain ou le territoire camerounais est agressé par des individus venant de la RCA, et s'il y a le droit de poursuite ou il y a le principe de réciprocité dans le droit de poursuite, ce n'est que normal que l'armée, soit camerounaise ou soit centrafricaine, pénètre au nom de ce principe-là. Mais il faut regarder de près. Pour pénétrer, il faut informer les autorités compétentes, notamment l'administration du territoire et le ministère de la Défense et de la Sécurité.
Et même diplomatiquement,
ce n'est pas le cas. Et à partir de ce moment, le président Binoumi l'a rappelé ici, du point de vue historique, nous ne faisons que perdre
une partie de notre territoire et nous ne réagissons pas. Je finis par là.
Oui.
Il y a des symboles. Avant 2013, lorsque vous arrivez à Cantonnier, il y a un espace de 200 ou 300 mètres qui sépare les deux frontières, ce qu'ils appellent généralement les zones tampons. Aujourd'hui, cette zone tampon a été occupée par le Cameroun. Pourquoi je dis par le Cameroun? Parce qu'il y a le drapeau camerounais au niveau de la zone tampon. Et le drapeau camerounais à Cantonnier.
Cantonnier,
oui. Le drapeau camerounais est à moins de 10 mètres ou de 100 mètres du drapeau centrafricain. Alors qu'à l'époque, il y avait un écart de 300-400 mètres qui sépare nos deux drapeaux. Mais personne n'a réagi. La zone tampon a été totalement rasée et il y a des constructions au niveau de cette zone. Ces constructions sont d'ordre camerounais. Malheureusement, on ne réagit pas. Et donc, vous voyez, ça traduit une faiblesse, ça traduit une capitulation
voilà.
À la fois du peuple centrafricain et des institutions de la République.
Farouk Chabas, vous avez 1 minute 30 pour qu'on puisse boucler cette partie et aller de l'autre côté de Birao.
Oui, je pense qu'en début d'analyse, j'avais parlé des éléments importants, notamment la question de la faillite de l'État. Vous avez entendu jusqu'à présent, on nous dit que voilà, l'autorité de l'État est restaurée, etc. Mais si déjà quand vous avez un gouvernement qui n'arrive même pas à gérer ne serait-ce que un périmètre au-delà de 3 km du palais de la Renaissance, comment voulez-vous que cet État-là puisse contrôler les frontières du Cameroun, du Congo, du Tchad, etc. Donc déjà, il y a cette faiblesse-là. Et pour pouvoir consolider un État, il faudrait consolider un État de droit, un État démocratique. Et là, on comprend maintenant tout le sens du combat de la société civile, de l'opposition, quand on impose à l'État de pouvoir suivre des principes démocratiques. Et là, on voit les conséquences. Les conséquences, c'est ça. C'est quand on veut justement se buter et rester sur une vision assez autoritaire du pouvoir, on en arrive à cela. Ça, c'est le premier point. Il y a notre frère ici, Cresso Beninga, a soulevé un point important en parlant de ce triangle de la mort. Ça, c'est une analyse que tout le monde est au courant. Tout le monde connaît cela, qu'il y a ce triangle de la mort qui rassemble le Tchad, le Cameroun et la République centrafricaine. Mais quelle a été la réponse au niveau global de notre gouvernement par rapport à cela? Est-ce que, comme je l'ai dit, est-ce que la loi de programmation militaire a pris en compte cela? Non, ce n'est pas le cas. Donc vous voyez bien que par jour, on vous dit montée en puissance de l'armée, montée en puissance de l'armée, mais en termes de doctrine. Quelle est la doctrine de l'emploi de la force de nos forces armées? Il n'y en a pas.
Merci.
Donc vous voyez bien que Merci c'est beaucoup, un sujet qui est important, monsieur, mais il n'y a pas de réponse stratégique à cela.
Voilà.
Et je terminerai par dire quoi,
je vous en prie.
Là, on est en train de toucher du doigt les conséquences d'une erreur gravissime que le gouvernement a cachée, à savoir la carte de Khartoum. Vous voyez aujourd'hui, on est au contraint aujourd'hui de voir de nos propres yeux les limites de cet accord-là. Quand vous voulez combattre des groupes, comme disait notre DIRCAB, négatifs, et que ces forces négatives sont dans le gouvernement, c'est un peu compliqué.
Une voilà un autre peu les agression, celle des Arabes Misaria du Soudan, c'était le 2 de ce mois, je vous parle du mois de décembre. Ils sont entrés en territoire centrafricain, plus précisément à Boromata, dans la Vakaga. Ils ont brûlé des maisons, faisant aussi des victimes. Nous allons faire le point avec notre correspondant à Biraro, Ramadan Abdelkader.
Le village Boromata a été surpris par cette attaque perpétrée par les Arabes Misriens du Soudan. À bord de plusieurs véhicules et des motos lourdement armées, leur présence a tout de suite semé la panique dans le village. Les miliciens ont d'abord procédé à des tirs d'intimidation, saccageant les installations des réseaux Telecel avant de s'en prendre aux habitants. La réplique d'un groupe de jeunes a été automatique. Cependant, on déplore trois blessés et des maisons incendiées du côté de la population. Véhicule des miliciens a été incendié. Cette attaque, selon des sources locales, est à titre de représailles. Si on remonte un peu loin, en mars dernier, les commerçants arabes Misria ont été tués au village Ndifa, à 80 km de Boromata. Les Arabes Misria ont demandé dommages et intérêts sans aucune réponse. Aujourd'hui, la population vit à Boromata avec la peur au ventre après cette attaque. Informé de la situation, le préfet de la Vakaga, lieutenant-colonel Léonard Bélé, a ordonné un déploiement des Fatah à Boromata. Ramadan Abdelkader, Birao Radio, Mekelouba.
Merci Ramadan Abdelkader. Milice arabe, Meshiria, c'est un truc nouveau pour les Centrafricains. Nous allons revenir sur nos questions principales. Que peut-on dire de la sécurité au niveau des frontières? Une minute pour chacun de nous, en commençant par vous, Monsieur Joseph Bindoumi.
Alors, vous posez la première question, c'est parce que notre débat aujourd'hui portait vraiment sur ça. Est-ce que nous avons encore nos 623 000 km², puisque notre pays est régulièrement envahi par les États voisins? Vous me donnez une minute, ça veut dire que vous ne m'avez pas laissé le temps de m'exprimer.
Mais ce que je veux... Malheureusement, le temps ne fait défaut.
Voilà, moi, ce que je veux vous dire, c'est que il faut que nous, nos gouvernants, sachent que lorsque vous avez des États voisins, les États voisins souhaitent votre propre faiblesse. Et lorsque vous êtes démontré comme État faible, les voisins viennent piétiner sur vous et vous écrasent définitivement. Et donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui donner l'impression que nous sommes République centrafricaine, que nous sommes faibles, que nous avons l'embargo, que nous n'avons rien à faire et que nous croyons que, en le disant à haute et intelligible voix en Afrique centrale, les autres vont dire « bon, nous avons pitié d'eux ». Mais ils vont nous écraser, comme vous avez remarqué au Soudan, vous avez remarqué au Cameroun. Mais je vous dis, pour les auditeurs qui nous écoutent et la minute que vous me donnez, que quand vous laissez la zone de Koundé et que vous rentrez vers la limite avec le Cameroun dans la zone de Ngamboula, vous allez vous rendre compte que les populations camerounaises viennent faire leur champ de café en territoire centrafricain, construisent la maison en territoire centrafricain en sachant que l'occupation du sol par une plantation de café et un immeuble entraîne la conquête du territoire centrafricain. Et nous sommes là, nous ne disons rien.
Même question pour vous, monsieur Farid Tairouka Chabaz, puisque nous avons évoqué tous ces problèmes que nous connaissons en République centrafricaine, mais que peut-on faire au niveau des frontières?
Monsieur Yagindi, je pense que la question aujourd'hui, c'est une question de renforcement des capacités de l'État. Nous n'avons pas un État, aujourd'hui l'État est failli. Quoi que disent aujourd'hui les hommes politiques, l'État est failli. Et si cet État, justement, avait les moyens de sa politique, et si cet État avait une politique globale de sécurité, nous n'en serons pas là. Je rappelle, nous avons le triangle de la mort, nous avons des zones grises, nous avons des points chauds. Pour tous ces points, ces éléments que je viens de répéter, nous n'avons aucun élément de réponse stratégique globale qui intègre la sécurité publique, la défense, la diplomatie. Ces questions-là ne sont pas intégrées. Et ça, c'est des questions géographiques. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a le discours médiatique, on va dire, politico-médiatique, oui, renforcement de capacité de l'État, l'autorité de l'État, le montant en puissance de l'armée. Mais là, aujourd'hui, la réalité nous a rattrapés. Donc, c'est pour dire que si dorénavant les prochains qui vont être élus, il nous faudrait qu'ils nous proposent une doctrine d'emploi de la force, qu'ils nous proposent une diplomatie agissante, efficace, ils nous proposent une vision globale qui attaque la question de la transhumance, parce que la question de la transhumance, c'est le crime organisé, c'est la drogue, c'est le trafic des armes. Donc, il faut une vision, une réponse globale sur ces éléments-là que je viens de
dire. Voilà, indiquer. Une réponse globale pour répondre aux préoccupations des Centrafricains. Monsieur David Gbeti, je rappelle que vous êtes directeur de cabinet au ministère de l'administration du territoire. Au niveau de frontières, est-ce que les Centrafricains aujourd'hui gardent leurs 623 000 km².
Tout à l'heure, quand je disais que les bornes n'ont pas bougé, effectivement, physiquement, ce qui a été implanté depuis conventionnellement sur les conventions internationales, ces morceaux de fer n'ont pas bougé. Mais sinon, il y a un problème de culture, de l'agriculture, tout ça. Il y a un problème transculturel, il y a un problème sociométrique. La population analphabète, où vous êtes mon cadet, je suis votre grand frère, on est venu tracer une ligne. Si vous dites que vous êtes congolais et que je suis centrafricain, ça, dans leur tête, lorsque nous allons sur le terrain, pour eux, c'est difficile. Nous parlons d'autres points, mais entre Congo, Brazza et République centrafricaine, mais les faits sont réels, alors qu'on ne tue pas là. C'est là que je dis que le gouvernement a fait 3 rencontres successives. Dit que le gouvernement n'a rien fait, non. Le gouvernement qui rassemblait le ministre de la Sécurité publique, le ministre des Affaires étrangères, Défense et puis l'administration du territoire ont fait 2 rencontres à la frontière Congo-Brazza vers Mongumba. Ensuite, ils se sont déportés à Brazza pour parler de ce problème. Aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de le faire, puisque nous sommes à une période de campagne, pour l'avenir de ce pays, ceux qui veulent aller à la majorité suprême de l'État doivent prendre en compte le problème que nous soulignons ici, qui va avec l'intérêt général de la population.
Voilà, monsieur Paul Cressan-Bénigan, en boucle avec vous quelques secondes sur ce point.
Non, je pense que ça a été dit autour de cette table. Il faut une réponse globale. Il faut une réponse à la fois militaire et diplomatique. Et je terminerai en disant simplement que il faut que nous ayons également l'amour de la patrie. Parce que même si les institutions ont failli, même si les institutions sont faibles, et que lorsque nous avons l'amour de notre patrie, nous pouvons défendre notre territoire. Nous pouvons faire de telle sorte que les gens ne viennent pas nous agresser. Du moins, même s'ils nous agressent et que nous n'arrivons pas à les repousser, au moins l'histoire aura retenu que nous avons opposé de la résistance, mais c'est les rapports de force qui n'étaient pas en notre faveur. Malheureusement, on sent qu'effectivement il y a un climat du défaitisme qui règne, et ce qui fait en sorte que nous sommes très mal considérés au sein de la sous-région.
Merci.